Bonjour à tous, aujourd'hui
Nous sommes heureux à Radio Diwa d'accueillir M. Olivier Boudot, le consultant de la société VDL qui a réalisé pour notre association une étude de faisabilité technique pour nous permettre de savoir comment concrètement couvrir le territoire Diwa par une radio FM. Cette étude avait trois volets, une de balayage de fréquences pour déterminer les fréquences disponibles, une de couverture pour savoir où mettre les émetteurs et une dernière pour évaluer les brouillages et autres interférences entre nos propres émetteurs et les émetteurs extérieurs. Dernière précision avant de laisser la parole à M. Boudot, précisons que le CSA lance dans l'établissement du plan de fréquence actuel la dernière attribution de fréquence FM de l'histoire. Et si Radio Diwa n'obtient pas de fréquence FM lors de cette procédure, il y aura des chances qu'il n'y ait plus jamais de radio dans le Diwa.
Monsieur Boudot, bonjour.
Alors, une petite question générale, qu'est-ce qu'un plan FM ?
Alors, un plan FM, en fait, c'est l'organisation de toutes les fréquences de radiodiffusion en modulation de fréquence dans une zone donnée. Alors en l'occurrence, là, il s'agit de la région Rhône-Alpes, hein, donc qui inclut le Diwa. Le Diwa étant donc à la limite sud du plan de fréquence. Alors ce qui rend les choses un petit peu complexes, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réautorise de manière globale la plupart des radios qui étaient jusqu'à présent autorisées en Rhône-Alpes et qui arrivaient en fin d'autorisation, avec de nouveaux entrants qui ont, donc, comme c'est votre cas, monté un dossier pour obtenir des fréquences supplémentaires dans un plan de fréquences déjà bien plein. Mais également, il faut savoir que juste au sud du Diwa, il y a la zone de planification que l'on appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans laquelle on trouve notamment les Hautes-Alpes, hein, donc le Champsaur, le Dévoluy, qui sont des régions proches du Diwa, et qui, elles, sont en cours d'autorisation. C'est-à-dire qu'il y a dans cette zone-là un certain nombre de fréquences déjà utilisées que l'on doit protéger. Voilà. Donc ça explique un petit peu la complexité du Diwa qui se trouve un petit peu au carrefour de plusieurs zones de planification.
Si je vous comprends bien, en fait, il n'y aurait pas tant de fréquences que ça, ce qui expliquerait la difficulté d'obtenir des fréquences.
Tout à fait. Il faut savoir que dans une région de moyenne, voire de haute montagne, puisque le Diwa se trouve à la limite de ces deux zones, il y a déjà pas mal de fréquences utilisées déjà pour le service public, qui a une obligation de par la loi de couvrir un pourcentage de population supérieur à 95%. Et par conséquent, il y a énormément de fréquences qui sont déjà utilisées pour les radios du service public dans la zone, qui elles ne font pas partie du plan de fréquences tel qu'on l'évoque en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés depuis parfois plus de 40 ans, et qui ont, j'allais dire, un droit à la protection qui reste ce qu'il est, c'est-à-dire une protection absolue des radios du service public, de plan de fréquence en plan de fréquence. Leurs fréquences restent quasiment les mêmes et doivent être protégées plan après plan. Donc il faut savoir que dans une région assez vallonnée, voire assez accidentée du point de vue du relief, l'importance du parc de fréquences du service public n'est pas négligeable. Et comme les fréquences, c'est un bien en nombre limité, hein, il faut savoir que le service public en lui-même prend déjà pas mal de place. Mais il faut aussi également savoir que le service public, du fait du relief, n'est pas présent partout non plus.
Oui, on peut même constater, quand on se balade en voiture, qu'il y a des endroits, je pense par exemple à la région au-delà de Luc, entre Luc et le col de Cabre, ou dans certains coins des baronnies, on ne capte quasiment rien du tout.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une zone qui pose des problèmes, puisque vous avez un certain nombre d'autorisations qui ont été données au service public, je pense à partir du Pagean 5 notamment, hein, et qui permettent effectivement de couvrir le nord de la zone que vous avez évoquée, hein, grosso modo toute la zone située au sud de Luc en Diwa sur la D93, mais qui ne sont pas toutes mises en service pour des raisons financières. Mais il n'empêche que ces fréquences, tant qu'elles n'ont pas été retirées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je pense précisément à une fréquence de France Bleu, notamment au Pagean 5, lorsque ces fréquences n'ont pas été mises en service ou pas encore été mises en service, elles nécessitent néanmoins d'être protégées.
Lorsque vous nous avez livré votre étude, notre objectif initial, c'était de couvrir quand même l'ensemble du Diwa. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pourrez consulter la carte réalisée VDL sur notre site
www.kiditou.net/rdwa.
Et on peut constater qu'effectivement, il y a des endroits où il n'y aura pas de diffusion, quoi qu'on fasse. Alors, comment expliquer que dans ces endroits où il n'y a pas de radio, et comment peut-on ne pas rajouter une radio ? Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, et j'aimerais bien que les auditeurs le comprennent.
Alors, c'est vrai que lorsque l'on se situe en fond de vallée, qu'on ne reçoit rien, on se dit « Ah, mais il n'y a aucune fréquence utilisée, on a toute la place qu'on veut ». Simplement, le problème est plus complexe que cela. C'est-à-dire que les fréquences, elles se propagent, notamment dans la bande FM, ce qu'on appelle en visibilité. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, les fréquences se propagent très très loin. Donc il faut imaginer que ce que l'on appelle une zone de planification, plus que les fonds de vallée, ce sont plutôt les crêtes que l'on doit prendre en compte. Là où on met les émetteurs, parce que les émetteurs, il faut les mettre de manière assez haute, sur les points hauts, de manière à ce qu'ils puissent arroser les vallées. Si on met un émetteur en fond de vallée, il va couvrir quelques kilomètres carrés au maximum, voire quelques centaines de mètres. Dès qu'il y aura un obstacle physique, les ondes ne passeront. Donc pour imaginer ce que c'est qu'un plan de fréquence et la complexité de la mise en œuvre d'un plan de fréquence, il faut s'installer sur les crêtes. Par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui va faire un trek dans la montagne d'Ousselon, par exemple. Quand vous êtes au sommet de la montagne d'Ousselon, là où précisément il est intéressant d'installer des émetteurs pour couvrir la zone la plus large possible, et donc donner au DIWA la zone de service de sa radio la plus large possible, quand vous êtes là-haut, vous vous apercevez que vous recevez toutes les radios de Valence, vous recevez toutes les radios de Montélimar, vous recevez une bonne part des radios émises depuis l'ouest des Hautes-Alpes, essentiellement Champsaur et Dévoluy, et vous recevez même parfois des radios qui viennent de plus loin, vous recevez des radios qui viennent de toute la Drôme provençale, par exemple, voire même du nord du Vaucluse.
Donc il y a une chance que si on installait un émetteur de puissance respectable, ce serait nous qui irions brouiller les autres.
Absolument. C'est-à-dire que si vous émettez même à partir d'une puissance limitée, de l'ordre d'une centaine de watts ou d'une cinquantaine de watts, vous pouvez vous retrouver en position de brouiller des radios qui seront assez éloignées géographiquement. Je pense par exemple à l'Ardèche, qui n'est pas tout à côté du Diwa, qui est de l'autre côté de la vallée du Rhône, mais dans lequel on trouve le même type de relief avec beaucoup de réémetteurs de Radio France, et peut-être plus que effectivement dans le Diwa, des radios locales, voire des radios régionales. Je pense à Fréquence 7 par exemple, ou à des radios comme ça, qui sont déjà implantées de longue date. Quand vous vous mettez sur la montagne d'Ousselon, il est évident qu'un émetteur qui sera à Vals-les-Bains, vous allez le recevoir. Quelqu'un qui va être en Ardèche, un petit peu dans les hauteurs, va recevoir tout ce qui viendra du Diwa. Donc le problème, c'est effectivement, quand vous montez en hauteur pour couvrir bien votre propre zone, vous allez brouiller très loin de votre propre zone, parce que précisément, vous êtes en montagne, vous vous mettez haut en altitude, et étant haut en altitude, vous allez brouiller très loin. Donc le problème du remplissage du plan de fréquence consiste, lorsque l'on installe une radio dans une zone donnée, de s'assurer qu'il n'y aura pas de brouillage distant. Et la complexité du problème, c'est que le Diwa n'est effectivement pas une région très bien pourvue en radio. Les autres régions ont déjà pris de l'avance, et il y a déjà un certain nombre de fréquences en service, aussi bien dans la vallée du Rhône, qu'en Drôme provençale, que dans l'Ardèche, voire même dans le Vaucluse, qui a pas mal de radios, parce que c'est un département relativement plus peuplé que la Drôme, eh bien dans toutes ces zones-là sont déjà des zones qui ont des zones de service à protéger, donc des radios qui existent et qui nécessitent d'être prises en compte pour la planification du Diwa, et effectivement ça rend les choses plus complexes. Et c'est pour la raison pour laquelle, dans l'étude dont vous avez fait état tout à l'heure, je vous ai proposé une couverture à base de sites situés plus bas que les crêtes, ce qui nécessite forcément de faire l'impasse sur un certain nombre de vallées, comme vous l'avez dit, et donc d'obtenir une couverture qui soit moins importante que la totalité du Diwa.
Est-ce que ce serait possible d'envisager que de fond de vallée en fond de vallée, on prenne un récepteur qui réceptionne l'onde en fin de course et la reprolonge tout ceci en fin de vallée, sans brouiller beaucoup plus loin ?
Alors effectivement, la reprise FM, c'est une solution que l'on utilise de manière assez peu coûteuse pour étendre un réseau, mais encore faut-il que les conditions d'émission soient compatibles avec la reprise FM. C'est-à-dire, si vous avez un émetteur point haut qui arrose relativement bien les hauteurs au-dessus de, disons, de toutes les zones de vie, de tous les villages, tous les bourgs qui peuvent intéresser la radio, en l'occurrence Radio Diwa, pour pouvoir faire une reprise locale sur un émetteur local, en se disant, bon, voilà, je vais me mettre sur une colline qui est au-dessus, par exemple, de Pradel, pour prendre juste un exemple au hasard, puis en me mettant au-dessus de Pradel, voilà, je vais monter à quelques centaines de mètres, je vais récupérer l'émetteur principal qui est, par exemple, à la Croix de Justin, au-dessus de Die, et puis de là, je vais réémettre en directif sur le village. C'est possible à condition d'avoir des émetteurs qui eux-mêmes, des émetteurs principaux, j'entends, qui eux-mêmes soient déjà suffisamment hauts pour arroser les hauteurs de Pradel. Le problème, c'est que si vous avez un problème de fréquence disponible que vous êtes obligé d'émettre dans toutes les zones à partir de points semi-hauts, voire de points bas, vous ne passerez pas dans la vallée d'à côté. Donc vous ne pourrez pas faire de reprise FM parce que Sauf à monter sur les crêtes, encore une fois, vous ne recevrez rien. Et si vous montez sur les crêtes pour émettre à partir des crêtes, vous retomberez sur le problème de tout à l'heure, qui est le brouillage distant. Donc effectivement, la solution dans votre cas, ça serait plus une série d'émetteurs points semi-haut qui pourrait être alimentée plus par ADSL. Et cette fois-ci, donc le but du jeu, pour obtenir une IADSL relativement proche, c'est de se mettre pas trop haut, justement, et assez proche des bourgs, ce qui permet de trouver un moyen terme entre une couverture parfaite et une couverture des zones de vie qui demeurerait assurée.
Oui, avec votre étude, nous pensons pouvoir couvrir à peu près 75% de la population. Il y a juste une autre petite question que je me posais. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser la même fréquence sur l'ensemble du territoire, cette histoire d'auto-brouillage, en fait ?
Ah ben ça, c'est justement une des raisons pour laquelle la radio numérique est en train d'être déployée et devrait l'être à la fin de l'année. C'est parce qu'en analogique, et notamment en modulation de fréquence, qu'on appelle la FM, lorsque vous avez deux émetteurs sur la même fréquence, ils se brouillent entre eux. Et le résultat, c'est une espèce de bouillie inaudible. On le voit bien pour ceux qui sont habitués, notamment à la vallée du Rhône, à prendre l'autoroute, et qui quittent l'autoroute en écoutant le 107.7, donc de la radio autoroutière. Lorsque vous quittez l'axe autoroutier sur lequel le 107.7 est synchronisé, avec plusieurs émetteurs sur la même fréquence le long de l'autoroute, donc dès que vous vous éloignez de cet axe, que vous sortez de la zone de synchronisation, le 107.7 devient inaudible, non pas tant parce que le niveau de signal est trop faible, mais parce que les émetteurs se brouillent les uns les autres. Alors pourquoi ne peut-on pas synchroniser des émetteurs pour une radio comme la radio d'Iwa? C'est parce que, précisément, vous souhaitez couvrir dans toutes les directions le plus large territoire possible. Donc synchroniser deux émetteurs parfaitement, qu'ils émettent la même chose au même moment sur un point bien localisé sur une autoroute, c'est faisable. Mais le problème d'une radio comme la radio d'Iwa, qui est une radio de superficie, c'est-à-dire qui doit couvrir le territoire le plus vaste possible, c'est que vous ne pouvez pas synchroniser deux émetteurs à plusieurs endroits en même temps. Il faut choisir un point de synchronisation et partout ailleurs, vous serez brouillé. Donc ce n'est pas une bonne solution. En multipliant les émetteurs sur la même fréquence, vous allez multiplier les brouillages, un peu dans le même cas que le problème évoqué au début de cet entretien, à savoir le brouillage distant, hein. C'est-à-dire que vous allez générer du brouillage vous-même sur votre propre réseau.
D'un autre côté, je prends un cas de figure, on prendrait les deux points les plus éloignés du DIWA possible. Et sachant que nous mettrions des émetteurs en bas de vallée, pourquoi ne pas penser, par exemple, si c'est en bas de vallée, donc ça ne va pas baver sur l'extérieur. Par exemple, je prends Vassy-en-Vercors qui est très éloigné de la moitié de Chalancon, séparé par d'innombrables vallées et encaissements. Ne peut-on pas imaginer qu'on puisse prendre la même fréquence, sachant qu'ils sont tellement loin et tellement encaissés qu'ils ne se rencontreront jamais?
Alors, oui, c'est ce qu'on a fait entre la Chapelle en Vercors et la Motte-Chalancon, puisqu'on a choisi deux fréquences qui étaient extrêmement proches. De même, Saint-Nazaire-le-Désert et la Motte-Chalancon, c'est pareil, hein, il y a ce qu'on appelle 200 kHz, 0,2 MHz d'écart, puisque dans un cas on a choisi 87.8 et dans l'autre cas 87.6, en jouant justement sur le relief pour que la zone de gêne soit limitée au col, hein, tout simplement, et que dans chaque bassin de vie, la radio soit parfaitement reçue. Donc on a déjà un petit peu joué là-dessus. Le problème, c'est que, encore une fois, en théorie, on pourrait réutiliser la même fréquence dans le nord de la zone par rapport à la Motte-Chalancon, mais le gros souci, c'est que bah, y a le reste du plan de fréquence. Et pour prendre l'exemple de la Motte-Chalancon, qui est sur 87.8 dans l'étude, plus vous montez au nord, plus vous vous rapprochez de l'émetteur de France Bleu, Drôme, Ardèche, de Valence, qui est lui sur 87.9. Donc, c'est-à-dire que dans le Vercors, et dès que vous commencez à vous approcher de la zone de Valence en règle générale, vous ne pouvez plus utiliser la fréquence de la Motte-Chalancon, qui elle-même est déjà conçue pour pouvoir, justement, fonctionner dans le masque de l'émetteur de France Bleu, qui est l'émetteur principal, qui est un émetteur puissant, hein, qui fait plusieurs kilowatts de puissance. Et justement, on réutilise les fréquences qui sont extrêmement proches de cet émetteur, juste au sud de la zone de service de celui-ci, pour dégager une fréquence supplémentaire en fond de vallée, ce que l'on a fait pour la Motte-Chalancon. Le souci, c'est qu'on ne peut pas réutiliser cette fréquence quand on s'approche de Valence, parce que là, il y aurait un brouillage mutuel avec l'émetteur existant de France Bleu.
On va marquer une petite pause musicale en écoutant le titre plus qu'approprié, On Your Radio, extrait de I Am Your Mind de Joe Jackson en 79. Je voudrais revenir sur un petit point. Alors, il y a quelques zones qui nous ont chagrinés. Par exemple, le conseiller général du canton de Luc qui nous avait soutenus dès le premier jour, M. Buis, c'est lui qui est censé financer cette étude, en fait, hein, avec d'autres conseillers généraux. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire Il n'y a absolument aucun espoir qu'au-delà de Luc, qu'un jour, il capte la radio, quoi.
C'est difficile, on peut l'imaginer. Mais j'allais dire, le problème de la zone de Lège, de Bourrières, de Beaumont-Diois, effectivement, ou de Charence, c'est que c'est une zone qui est à la frontière du plan de fréquence Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez les Hautes-Alpes qui commencent tout de suite derrière. Donc c'est une zone complexe. C'est une zone complexe parce qu'il y a déjà des radios en cours d'autorisation sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour lesquelles le plan n'est pas remis en cause. C'est-à-dire qu'on est déjà sur le plan définitif. Donc ce qu'il faudra faire, à mon sens, dans une zone comme celle-ci, c'est déjà partir sur les fréquences qui ont été proposées pour le DIWA. Et si ensuite on s'aperçoit que concrètement sur le terrain, dans les bourgs en question, on peut rajouter, par exemple sur la même fréquence que la fréquence de Jansac, des émetteurs pas puissants, hein, entre 5 et 10 watts, vraiment des émetteurs locaux, pour couvrir les bourgs et qui ne se gênent pas mutuellement, et ben ça serait un petit peu du coup par coup. C'est ce que le CSA appelle des émetteurs de confort. Et ces émetteurs de confort, en fait, ils sont autorisés dans une deuxième phase, après la mise en service du plan, c'est-à-dire quand vous avez une radio qui a été autorisée sur plusieurs émetteurs principaux, cette radio met en place ces émetteurs, démarre, voit quelle est sa zone de service réelle, la compare avec la zone de service calculée, et en fonction du résultat réellement obtenu sur le terrain, la radio demande au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'autoriser à rajouter des réémetteurs de confort dans certaines zones particulières. Donc on peut penser aux villages que je viens d'évoquer, hein, les villages qui sont au sud de Luc en Diois. Et effectivement, dans ces cas-là, en disant au CSA, ben voilà, là je suis très mal reçu dans telle et telle région, est-ce que je peux rajouter un émetteur en isofréquence, c'est-à-dire sur la même fréquence, de 10 watts, vraiment sur le village de Lège, sur le village de Miscon, sur, voyez, bon. Et à partir de là, effectivement, on peut envisager une extension au coup par coup, mais qui sera plus une extension pragmatique liée à la réalité du réseau et à la réalité du plan de fréquence une fois que tout aura démarré. Ce qu'on appelle parfois le fine-tuning, vous voyez, dans le domaine industriel, c'est on va adapter le réseau aux réalités du terrain une fois que tout aura démarré.
Donc en fait, on peut quand même espérer que ce soit possible. Moi, j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec une personne du CSA qui me disait, à titre officieux, qu'elle doutait qu'on nous attribue ces 7 fréquences. À ce moment-là, est-ce que vous pensez que ce sera encore plus compliqué si on n'a pas ces 7 fréquences ?
Vous savez, c'est toujours le problème du CSA, il est double. D'abord, il y a le problème technique qu'on a évoqué, c'est-à-dire que le CSA doit s'assurer que, en fonction de toutes les demandes qui ont été posées dans la région, tout soit compatible du point de vue technique, parce que, bon, nous, on a fait une étude pour la radio d'Ivoire, mais d'autres éditeurs de services existants ou peut-être d'autres projets ont peut-être également déposé des dossiers au CSA, ce que l'on ne peut pas savoir, nous, à notre niveau. Donc peut-être qu'il y a déjà un certain nombre de fréquences qui ont été demandées sur la zone de Luc en Ivoire, voire même sur la zone de Die en règle générale, ou de Châtillon, où on voyait les zones les plus peuplées de la région, qui font que les fréquences que l'on a demandées ont déjà été demandées par d'autres. Ce n'est pas impossible, parce que l'étude technique consistant à dégager de la ressource, elle peut être faite par chaque opérateur technique, qui d'une certaine manière, le plan de fréquence étant ce qu'il est, va arriver au même résultat. Donc peut-être que le CSA s'est déjà heurté à des demandes techniques identiques dans la même zone. Et c'est là où le deuxième problème rentre en ligne de compte, à savoir que le CSA, lui, doit conserver un certain équilibre entre les éditeurs de services de différentes natures, les radios d'intérêt local, les radios commerciales régionales, les radios nationales, et là se pose le problème de la diversité. Peut-être que le CSA va se dire, oui, ben là, une radio pour le DIWA, c'est bien, mais dans telle zone, lui mettre cette fréquence, alors qu'il n'y a pas une seule radio nationale, ça pose problème. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi panacher, autoriser des radios nationales ? Vous voyez, il y a tout le problème du pluralisme qui vient se greffer sur la limite de la ressource en fréquence.
Tout à l'heure, vous aviez dit que la radio numérique réglait le problème du brouillage de fréquence et permettait l'isofréquence. Donc, c'est l'avenir, mais pourriez-vous nous l'expliquer un petit peu, là ?
Ben, c'est simple, la radio numérique, ça consiste à regrouper un certain nombre d'éditeurs de services dans ce que l'on appelle un multiplex, c'est-à-dire que vous avez un émetteur ou une série d'émetteurs qui diffuse sur une fréquence, et dans cette fréquence, vous trouvez 6, 7, 8 radios. Et il se trouve que la technique utilisée pour la radio numérique permet, sans brouillage cette fois-ci, de réutiliser la même fréquence dans toute la zone qui doit être couverte par ces 8 radios. C'est-à-dire que là, par contre, si jamais il y a une zone de planification radio-numérique qui concerne le DIWA, encore une fois, je tempère, la radio-numérique étant, techniquement parlant, une technologie qui nécessite le regroupement des radios, je pense que là, le premier souci va être de trouver d'autres éditeurs intéressés pour couvrir le DIWA, mais sans doute pas que le DIWA, c'est-à-dire que la zone qui pourrait intéresser le plus de monde sera peut-être le DIWA, mais également la Drôme provençale, par exemple. Voire une partie de la vallée du Rhône, on va dire entre l'Oriole, Cray et, voyez, toute la zone de la Drôme qui attenante au DIWA. Et à partir de là, si on considère qu'une zone de planification de cette envergure peut être mise en place, alors là, effectivement, vous aurez une fréquence qui serait attribuée à cette zone et qui pourrait être utilisée par tous les émetteurs placés dans la dite zone, sans que cela se brouille, parce que la technique utilisée en numérique permet d'utiliser des émetteurs sur la même fréquence, les 10 émetteurs étant reçus simultanément par les récepteurs, et au contraire, plus on a d'émetteurs reçus en même temps, et meilleur est le signal, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'intérêt de la radio numérique, c'est de se dire, voilà, telle vallée, tel village peut être couvert plus ou moins bien par 2, 3, 4 émetteurs. Ce qui permet de fiabiliser la zone de service, ce qui permet donc d'obtenir une couverture plus régulière, plus complète, avec comme contrepartie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le fait que, eh bien, dans ces cas-là, il faut s'arranger avec d'autres, hein, puisqu'il y a plusieurs radios qui montent sur une fréquence. Et s'arranger avec d'autres, ça veut peut-être dire augmenter un peu la superficie de la zone de service qui intéresse particulièrement telle ou telle radio.
Et on peut espérer que ça soit en route dans combien de temps ? Cette année, mais...
L'expert de l'audiovisuel est en train de finaliser son appel à candidature pour les 3 zones de la première phase de démarrage de la radio numérique, hein, qui sont les zones de Paris, de Marseille et de Nice. D'après les informations que l'on peut avoir à travers les groupes de travail actuellement en cours au Conseil supérieur de l'audiovisuel, on peut imaginer que la radio numérique va finalement démarrer à la fin de l'année. En tout cas, c'est le souhait du Conseil. Et à partir de là, lorsque la radio numérique aura démarré dans ces 3 villes, va s'enclencher un processus de planification dans le reste de la France. Et ensuite, ce n'est plus qu'une question de calendrier. Et quelles seront les zones qui sont déployées en premier par le Conseil ? J'allais dire, ça, c'est une décision à la fois politique, économique, d'aménagement du territoire, qu'il m'est difficile d'évoquer ici, parce que je n'ai pas plus d'éléments que ça, mais ça devrait aller assez vite. En tout cas, le souhait des décideurs était jusqu'à présent de déployer la radio numérique d'abord dans 3 villes pour valider le processus et ensuite d'aller assez vite pour déployer la radio numérique sur le reste du territoire.
Déjà, c'est un gros travail de fonder une radio FM classique. On n'aura pas forcément le temps ni l'énergie de participer à ce multiplex. Est-ce qu'on pourra se greffer par la suite ?
Par exemple, 6 éditeurs de services qui sont intéressés pour couvrir le DIWA. Je pense qu'un certain nombre d'éditeurs régionaux pourraient l'être, hein, voire peut-être certaines radios nationales, ou ce qu'on appelle certaines radios de catégorie D, hein, qui sont des radios qui ont vocation à couvrir des zones parfois pas très peuplées, mais bon, je pense à des radios comme, par exemple, Jazz Radio, qui est dans la région, qui appartient à Espace Group, hein, qui est une radio commerciale, mais qui a souvent fait des demandes de fréquences dans des zones pas très peuplées. Notamment, ils viennent de recevoir une fréquence à Apte. Bon, on peut imaginer qu'ils seraient intéressés par couvrir le DIWA. Et c'est vrai que ce sont des radios qui ont une envergure financière plus importante que des radios ou que des associatives ou que des projets tels que les vôtres. Maintenant, effectivement, s'il y a déjà 5-6 radios intéressées pour monter sur un multiplex qui englobe le DIWA, on peut imaginer de démarrer, que le CSA autorise 5 ou 6 éditeurs, avec éventuellement une réserve en ressources qui permette de rajouter 1, 2, voire 3 éditeurs supplémentaires. C'est-à-dire tout est possible, tout dépendra de la manière dont les appels à candidature sont effectués par le Conseil et la façon dont les éditeurs y répondent et le succès qu'auront les appels à candidature en radio numérique.
Très bien. Eh ben, je crois que je vous remercie beaucoup pour votre intervention. J'espère que les auditeurs comprendront ce langage qui reste quand même relativement accessible. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste et je vous comprends. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne après-midi.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir, monsieur Boudot.
Au revoir.